Alors, on l'a lu, c'est un grand chapitre magnifique, long et riche, magnifique portrait d'amour de Dieu. Et si je voulais, si on voulait creuser chaque péricope, chaque partie, on serait encore là dans un mois et peut-être encore l'année prochaine. Donc, comment?
On va déménager.
On va déménager, on va déménager au ciel et on n'aura même pas encore assez de temps pour l'étudier. Ce qui m'a frappé pendant que je préparais ce texte, et je vais te, voilà, on va avoir une vue d'ensemble plutôt globale, aérienne, du chapitre 8. C'est que bien souvent, c'est ce qui m'a frappé. On croit connaître Dieu et l'avoir fait rentrer dans une certaine forme de compréhension, et il est bien au-delà de ce qu'on pensait. Si je vous demande à chacun qui est Dieu, alors, chacun dans son cœur d'entre vous aura une vision de qui est Dieu, ceci ou cela. Je me rappelle de ce moment très mémorable où j'étais avec Alain dans la cuisine. Alain, c'est mon ancien colocataire qui est maintenant en maison de retraite, qui a plus de 70 ans, et qui me disait avec force et conviction, Dieu est amour, Dieu ne juge pas. Et il avait sa vision très claire de qui était Dieu. Pour lui, il n'y avait aucun doute, Dieu est amour, Dieu ne juge pas. Sauf que voilà, il avait certainement pas lu Hébreux 9, 27 qui dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Et le fait que Dieu est amour et que Dieu juge, en réalité, ça ne se contredit pas. Mais on a tous cette intelligence aussi limitée, on est humain, on est limité par notre intelligence, on est limité par nos mots pour comprendre Dieu et on a tendance à mettre Dieu dans une boîte aux dimensions qui ne changent pas. Alors, laissez-moi vous poser la question, est-ce que vous êtes dans ce cas ce matin? Et je pense que je peux l'affirmer, nous avons tous cette tendance-là de prendre un pinceau, de rentrer dans notre atelier, de mettre un peu de peinture et de commencer à dresser un tableau à coup de théologie, à coup de pensée, à coup d'idées, et de se dire, voilà, c'est Dieu. Et on pose le pinceau, et l'œuvre est terminée, et nous avons notre idée de qui est Dieu. Et encore plus, quand ça fait des années qu'on est dans l'Église, qu'on a assisté à tant et tant de prédications, et encore plus peut-être quand on a fait des études de théologie et qu'on a étudié tous les coins et les recoins de ce qu'ont écrit les théologiens. On se dit, c'est bon, j'ai compris, enfin qui est Dieu. C'est le danger, le fait de le faire rentrer dans une boîte, et c'est ce qu'on peut faire inconsciemment ou non. Et ce chapitre, dans mon cas, a balayé ça. De manière assez forte pendant cette préparation. En fait, connaître Dieu, c'est pas juste connaître des choses sur Dieu, mais c'est vraiment le connaître intimement. Vous savez ce qu'on dit? On dit parfois que si ton époux ou ton épouse, même si tu la connais jamais vraiment autant que tu l'imagines. Bon, et je pense que vous êtes pas mal d'entre vous ont plus d'avance que moi sur ce sujet-là. Et bien des années après des années de mariage, on découvre encore des choses sur notre époux, notre épouse. Alors, Chloé, prépare-toi. Dans 20 ans, tu vas encore découvrir des nouvelles choses sur moi. Et c'est la même chose avec Dieu. Paul dit que les richesses de Christ sont insondables aux Éphésiens. Insondables. Le Dieu en lequel nous croyons, notre Dieu, est insondable, bien au-delà de n'importe quelle peinture ou idée que nous pouvons avoir écrite. Il est bien plus grand. Et malgré la richesse et la beauté de la théologie, et j'aime la théologie, j'aime l'étude de Dieu, mais ça ne sera jamais suffisant, nos mots ne seront jamais suffisants pour décrire complètement notre Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans tout son amour. Notre compréhension de ces richesses insondables seront toujours limitées. Et ce que fait Paul ici dans Romains 8, c'est vraiment de dire... Voilà ce qu'a fait Christ. Alors, mettez à mort votre péché, vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, à cause de tout ça. Et là, il nous dresse un tableau magistral de qui est Dieu. Et je vous en supplie, soyez pas insensible à ce tableau, en vous disant, j'ai compris qui est Dieu. Et parce que c'est pas juste une question de connaissance dans la tête, mais de connaissance dans le cœur. Alors, j'aimerais juste vous montrer comment est-ce qu'il fait ça. Dans Romains 8, on va dresser le grand tableau de Romains 8 et du Dieu de Romains 8. Et ensuite, j'aimerais vous montrer comment est-ce que voir Dieu, ça peut nous aider à marcher cette bataille de l'esprit et à remporter des victoires dans notre vie spirituelle contre le péché. Alors, on peut afficher la prochaine slide. Ça vient. Voilà, ça c'est Romains 8. On a vu hier matin, samedi matin, Romains 1, 1 à 3. C'est le début de ce chapitre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il condamna notre péché, ton et mon péché, dans le corps de Jésus-Christ. Romains 8. Verset 3, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause de son Fils Jésus-Christ. Plus de condamnation. Et ensuite, il leur dit, vivez par l'Esprit. Prochaine slide. C'est la libération du verset 4 à 14, la libération du pouvoir du Saint-Esprit qui nous permet de mettre à mort notre péché et d'aimer les gens. Verset, par l'Esprit, faites mourir les manières d'agir du corps. Verset 13, la justice réclamée par la loi. Merci, on a perdu le son. La justice réclamée par la loi est accomplie en nous. Or, celui qui aime les autres accomplit la loi. Il est en train de leur dire, maintenant, marchez par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est quoi? Mettez à mort votre péché et accomplissez la loi est égal, aimez votre prochain comme vous-même, comme Christ vous a aimé. Et ensuite, après avoir mis ce sommet-là de l'exhortation, la vie pratique pour nous, il va descendre dans les étages, les fondations de cette. Ça serait un peu le niveau zéro, et ensuite les fondations qui sous-tendent cette marche par l'esprit, les choses que nous avons besoin de connaître au plus profond de nos cœurs pour marcher et vivre dans la victoire. Et c'est ça la descente, et ça va de plus en plus profond. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre cette vie de libération par l'esprit? Alors, parce que nous avons une assurance ferme. Alors, on peut mettre la slide suivante. S'il te plaît, merci Denis. Nous avons une assurance ferme que nous sommes enfants de Dieu. C'est les versets 15 à 17. Les enfants n'ont plus peur. Nous pouvons aller de l'avance. Et pourquoi sommes-nous enfants de Dieu? Pourquoi avons-nous cette assurance? Nous avons cette assurance ferme parce que maintenant, nous savons que Dieu fait tout concourir pour notre bien. Premièrement, il fait tout concourir pour notre bien. Au travers de notre gloire et l'inclusion de la gloire de l'univers. C'est qu'il dit, quand il dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, le verset 28. Autrement dit, tout ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, contribue à cette gloire à venir. Et la création aussi a l'espérance de prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, c'est le verset 21. Cet héritage glorieux, éternel, aujourd'hui, il fait tout concourir pour ce bien. Au travers, donc pour la gloire, au travers de la gloire et l'inclusion de la gloire de tout l'univers dans notre gloire, qui a l'espérance de prendre part à notre gloire, et également au travers de souffrances et de nos soupirs aujourd'hui. Nous voyons que nous soupirons. Ces versets 18, c'est ça, 15, non, c'est la suivante, ouais, c'est possible. C'est pas grave pour le micro. Ça me laisse le temps de digérer. Voilà. Versets 18 à 28. Maintenant, il fait tout concourir pour notre bien au travers de notre gloire et l'inclusion de la gloire de l'univers dans notre gloire et également au travers de souffrances. C'est la slide suivante. Au travers de nos souffrances et nos soupirs. C'est le paragraphe du verset 18. À 27. Nous soupirons et la création soupira avec nous. Et nous attendons, nous avons l'espérance d'être libérés de notre corps. Notre corps attend encore l'adoption. Et il fait tout concourir pour notre bien. Nous avons cette assurance maintenant qu'il fait ça là maintenant. Pourquoi? Slide suivante. À cause de la chaîne incassable du salut. C'est les versets 29 à 30. Ce qu'il a prédestiné. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. La raison bouleversante pour laquelle tout concourt pour notre bien aujourd'hui, C'est parce qu'il a fait tout ça pour nous, prédestiner, appeler, déclarer juste. Il nous a accordé la gloire. Que dire de plus? Et il commence, c'est la slide suivante, il enchaîne avec des questions rhétoriques. Que dire de plus? Que dire de plus? Si Dieu a fait tout cela, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce que nous pourrions craindre encore? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, ne nous accorderait-il pas tout aussi avec lui? Et là, on voit qu'on est dans... On descend en dessous encore de ce premier niveau, Romains 1, 1 à 3 et Romains 8, 29 à 30, c'est le grand plan de salut avec la connaissance depuis toute éternité de vous et de moi, la prédestination à être sauvé et à le connaître, l'appel efficace qui nous a rendu la vie à lui, la justification par la croix, Romains 1, 1 à 3, la sanctification, le sommet, et aujourd'hui, la glorification qui est presque déjà acquise, parce que c'est sûr à 200%. Et la raison pour laquelle tout cela est là, la raison la plus fondamentale, c'est laquelle? Pourquoi tout cela? C'est le dernier échelon. Les fondements les plus posés, lourds de notre assurance, de pourquoi est-ce qu'on peut faire ce qui est là, là-haut. L'amour éternel, depuis toute éternité, avant la fondation des temps, la création du monde, pour chacun d'entre nous. En effet, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la connaissance de ce Dieu-là, waouh ! Le Dieu qui nous aime chacun de toute éternité. Ainsi, tout le chapitre de Romains 8 a pour but... est au service de notre sainteté aujourd'hui. Que nous puissions vivre en sainteté aujourd'hui. Que nous puissions mettre à mort notre péché et être capables d'aimer notre prochain. Parce que nous savons que nous sommes enfants, qu'il fait tout concourir pour notre bien, que nous faisons partie de cette chaîne incassable du salut, qu'il n'y a aucun maillon faible dans cette chaîne et que tout cela est à cause de quoi? De l'amour de Dieu personnellement. Pour toi et moi. Merci. Merci David. Et la vraie connaissance de ces vérités-là, la vraie connaissance intime, personnelle de ce Dieu-là, c'est ce qui nous permet de progresser. Grandir dans notre connaissance personnelle et intime de Dieu, c'est ce qui nous permet de devenir de plus en plus semblables à Jésus. Quand nous connaissons Dieu de plus en plus, alors nous sommes de plus en plus libres de notre péché. C'est ce que disait Jésus aux Juifs qui avaient cru en lui, et ils n'avaient même pas conscience d'être esclaves du péché. Voici ce qu'il leur dit, c'est la slide suivante. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Connaître la vérité sur qui est Dieu et les réalités de ce monde, cela nous rend libres. Et la seule manière d'être toujours plus libre de notre péché, je ne sais pas quel est ton péché ce matin, tout le monde sait ce qu'est le péché en général, mais si je te demande aujourd'hui quel est ton péché, celui qui te donne du fil à retordre, tu vas certainement pouvoir le nommer, en nommer un, en nommer deux, très précisément. Quel est-il? La seule manière d'être toujours libre de notre péché, d'être toujours plus libre, d'aimer ceux qui sont autour de nous, c'est de toujours mieux connaître la vérité, de toujours mieux connaître Dieu. Et cela est si central, si primordial, que c'est la prière que fait Paul également pour les Philippiens, et c'est la prière que nous pouvons prier les uns pour les autres et que j'aimerais prier maintenant pour nous. Philippiens 2, versets 9 à 11. Voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Un amour qui grandit en quoi? En connaissance et en pleine intelligence. On peut dire « j'aime Dieu », mais nous devons avoir un amour pour lui qui grandit en connaissance de qui il est vraiment, de la vérité. Vivre par l'esprit, c'est quoi? C'est découvrir Dieu un peu plus chaque jour. Et alors on progresse, alors on est transformé. Laisse-moi te demander ce matin, j'essaie de raccrocher ce qui ça fait peut-être 20 minutes là, c'est le moment où il y a un petit coup de soufflement. Est-ce que nous progressons encore? Est-ce que tu progresses encore? Est-ce que tu viens t'asseoir à la table de Dieu, entendre ce qu'il a à te dire sur lui-même? Est-ce que cela change aujourd'hui la manière dont tu vis? Est-ce que tu apprends, est-ce que tu aimes de nouvelles choses sur lui? Est-ce que tu les aimes d'une nouvelle manière, plus profonde? Parce que sans le connaître, tes fardeaux, le péché et le défi d'aimer ton époux, tes enfants ou les frères de l'Église, c'est voué à l'échec. Et un dessin d'enfant n'aidera pas. Une petite anecdote, une petite image pour vous aider à comprendre. Imaginez, je peux te prendre comme exemple David? Tu vas voir, ça, il n'y a pas de mal. Imaginez David qui est dans son salon avec la petite Ellie qui est en train, qui lui fait un dessin. Et qui lui dit, regarde papa, c'est ton portrait. Alors un portrait d'une ressemblance tout à fait relative, approximative. Mais David, qui est un fin amateur d'art, reconnaît les talents artistiques de sa fille et lui dit, ben, merci, merci chérie pour ce dessin qui me représente. Imaginez maintenant qu'un homme avec de mauvaises intentions rentre soudainement dans la pièce et qu'il veuille s'en prendre à la petite Ellie. Que va faire la petite Ellie? Est-ce qu'elle va prendre le petit dessin qu'elle a dessiné de papa et se cacher derrière? Est-ce qu'elle va se cacher derrière cette représentation toute approximative de David? Non. Elle va aller courir dans les jambes de son père. Maintenant, c'est plutôt le torse. Et elle va aller chercher la réalité plutôt qu'une représentation ou une idée une représentation. Elle sait que le dessin n'est pas la réalité. Et David utilisera alors toutes ses compétences en arts martiaux pour défaire ce mécréant qui a osé s'en prendre à sa fille. Mais ça serait de la folie de se cacher derrière un dessin d'enfant parce qu'il représente Dieu. Et nous pourrions, alors que nous faisons face à notre péché et ce défi d'aimer les gens, aller vers des représentations du niveau d'un dessin d'enfant, plutôt que d'aller directement à la source, dans les difficultés, chercher notre Père, la réalité, le dessin d'enfant. Notre conception close et fermée n'aidera pas. Le dessein d'enfant n'aidera pas. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Comment faire pour que notre connaissance de Dieu puisse nous aider la semaine prochaine à progresser? Et j'aimerais conclure, non pas encore conclure, mais terminer, terminer avec une méthode plutôt pratique pour mettre ça en place. Et c'est ce que j'ai expérimenté en étudiant ce passage, notamment moi par rapport à mon péché. Si je mets un nom dessus, l'un des choses avec laquelle je lutte, c'est la crainte des hommes. Et ce passage a été aidant pour moi. Et j'aimerais reprendre l'exemple. C'était Gilles que tu l'avais appelé hier, le monsieur
Gary.
Gary. Ben, je vais reprendre l'exemple de Gary. Et j'aimerais qu'on voit avec Gary comment est-ce qu'on peut faire ça. Connaître Dieu pour être libéré. Connaître Dieu pour grandir. Et nous allons suivre les conseils d'un père de l'Église, Martin Luther, qui utilise une méthode lui aussi pour grandir et se sanctifier. Alors, je vous emmène avec moi dans cette méthode en trois éléments. Alors, est-ce que tu peux mettre la slide suivante? Oui, super. Voilà ce qu'il dit. Je veux que vous sachiez comment étudier la théologie de la bonne manière. Attention, théologie ne veut pas dire des connaissances sèches et stériles, juste des grandes notions, mais c'est vraiment ici pas forcément quelque chose d'inaccessible, mais vraiment cette connaissance de Dieu, théologie, étude de Dieu, personnelle aussi, dans la pratique. Je veux que vous sachiez comment étudier la théologie de la bonne manière. J'ai moi-même pratiqué cette méthode. La méthode dont je parle est celle que le saint roi David enseigne dans le psaume 119. Vous y trouverez trois règles. Elles sont fréquemment proposées tout au long du psaume et s'énoncent ainsi. Oratio, meditatio, tentatio. Prière, méditation et épreuve. Trois étapes. Trois choses pratiques pour faire cela. Alors, on va essayer d'appliquer ça, cette méthode à Gary. Donc, Gary, si on rappelle, il est en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Pourquoi est-ce qu'il est seul? Parce que c'est quelqu'un d'assez égocentrique, tourné sur lui-même, méchant. Il a tendance à être en colère quand on vient dépasser ses limites. Elle a un peu du mal à contrôler sa colère vis-à-vis de sa femme, ses enfants, et du coup, les gens l'évitent parce qu'il n'est pas, il n'est pas agréable à vivre. Tout ce qui ne va pas dans son sens est un peu comme une agression, et ça, il réagit au quart de tour. Donc, si on devait mettre un nom, on pourrait dire le problème de Gary, c'est la colère, ou c'est le manque d'amour pour les autres, ou l'égoïsme. Je pense que là, il y a un sacré tableau. Mais en tout cas, nos péchés sont dans le même cas. On est souvent plusieurs choses qui sont combinées les unes entre les autres. Alors, comment est-ce que Gary, qui a conscience que son vrai problème, même s'il en souffre, c'est pas la solitude, mais c'est cet égoïsme colérique. Voilà. Il en a conscience. Alors voilà, vous pouvez vous mettre à la place de Gary avec votre chose, la chose avec laquelle vous luttez. Et la première étape, c'est la prière. Voici ce que nous dit Martin Luther sur cette première étape qu'est la prière. Vous devriez désespérer complètement de votre sens et de votre raison, car ce n'est pas par eux que vous atteindrez le but. Autrement dit, pas par vos propres forces. Agenouillez-vous plutôt dans votre petite chambre privée et avec une humilité et un sérieux sincère, priez Dieu par l'intermédiaire de son cher Fils de vous accorder gracieusement son Saint-Esprit pour qu'il vous éclaire, vous guide et vous donne intelligence. Comme vous le voyez, David prie constamment dans le psaume, je prie le verset 18 du psaume 119 par exemple, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Autrement dit, je reconnais que je ne suis pas capable, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas par mes propres forces. Seigneur, ouvre mes yeux dans ta parole pour que je voie, pour que je te connaisse, parce que je sais que c'est au travers de la connaissance de qui tu es que je peux vraiment progresser. Ouvre mes yeux, rends-moi dépendant. Et il prépare son cœur, il ouvre ses yeux et il permet à Dieu de venir parler à son cœur. C'est la première étape. Prendre le temps. Et nous voyons en Romains 8 que dans cette phase où certainement que Gary va être en train de lutter avec son péché, mais tu vois ce qu'elle m'a fait, tu vois comment elle m'a parlé, tu vois comment ça fait mal, Seigneur. Et parfois par des soupirs, on dit beaucoup plus à Dieu du fond de notre cœur que par des mots. Et le Saint-Esprit, dans ce moment-là de prière, vient à notre aide pour nous aider à prier ces choses-là, pour nous aider à faire cette première étape. Et après la prière, c'est la méditation. La méditation de quoi? Pas la méditation de vider son esprit, la méditation du texte biblique. C'est-à-dire le prendre, le lire, le relire, le prendre avec soi dans son cœur, le méditer, pas juste le laisser et puis s'en aller, mais le prendre avec soi et réfléchir comment est-ce que cette réalité-là, elle change quelque chose dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et essayer de s'imprégner, de se focusser, de se concentrer au maximum sur ces questions-là. Par exemple, Gary, j'avais choisi Gilles, j'avais oublié. Gary prend le Romains chapitre 8 et il lit le verset 13. Je dois mettre à mort mon péché. Et il réalise, ok, le problème, c'est pas que je suis tenté par des choses extérieures, c'est pas que j'ai des démons qui m'attaquent. Non, c'est mon péché. C'est moi qui dois le mettre à mort. C'est ma responsabilité, c'est ma détermination. Alors qu'il médite, il réalise cela. Et puis, il lit le verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et il réalise que les petites frustrations, les choses qui se passent, et bien en réalité, à l'échelle de l'éternité, c'est des toutes petites frustrations et qu'il pourrait plus facilement passer dessus. Le petit reproche que m'a fait mon épouse parce que j'ai pas sorti les poubelles c'est pas si grave. Et si je suis malade aujourd'hui et que en rentrant elle a pas fait ci ou ça, ou que mes enfants sont vraiment insupportables à ce moment-là parce qu'ils crient dans tous les sens alors que c'est le moment d'aller à l'école et puis qu'ils n'ont pas mis leur petite souffrance, mais quand on a médité ces choses-là à l'échelle de l'éternité. Et puis, il va lire les versets qui disent, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image du Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Autrement dit, mon épouse ou mes enfants, ce sont des êtres éternels qui vivront éternellement. Et la méditation sur ce passage va l'aider à réaliser ces réalités. Et écoutez ce que dit C.S. Lewis, qui médite sur des réalités similaires. Et j'attire votre attention, qu'on puisse réfléchir à ces questions. Il est possible que chacun pense trop à sa propre gloire potentielle dans l'avenir, mais il n'est guère possible qu'il pense trop souvent ou trop profondément à celle de son voisin. Est-ce que tu penses que l'être, la personne qui est assise à côté de toi, est un être qui va vivre éternellement? La charge ou le poids ou le fardeau de gloire de mon prochain devrait être posé quotidiennement sur mon dos, une charge si lourde que seule l'humilité peut la porter et que le dos des orgueilleux sera brisé. C'est très sérieux de vivre dans une société de dieux et de déesses potentielles. Même si on ne sera pas Dieu, on ne sera jamais Dieu, mais l'idée c'est qu'on sera glorifié à l'image de Dieu. De se rappeler que la personne la plus... Pardon, j'ai sauté le livre. Potentiel, si ça. De se rappeler que la personne la plus ennuyeuse et la plus inintéressante, à laquelle vous parlez peut-être, un jour sera une créature que si vous la voyez maintenant, vous seriez fortement tenté d'adorer, ou bien une horreur et une corruption telles que vous ne les rencontriez aujourd'hui, si tant que vous les rencontriez uniquement dans un cauchemar. Autrement dit, si je paraphrase, la personne qui est peut-être la plus ennuyeuse avec qui vous parlez aujourd'hui, c'est peut-être moi en ce moment. Demain, dans l'éternité, elle sera peut-être une personne si glorieuse que vous seriez tenté de l'adorer, ou en enfer, une chose aussi horrible qu'on pourrait difficilement oser la regarder aujourd'hui. Et tout au long de la journée, nous nous aidons mutuellement, dans une certaine mesure, à atteindre l'une ou l'autre de ces destinations. Il n'y a pas de gens ordinaires. Vous n'avez jamais parlé à un simple mortel. Mais c'est avec les immortels que nous plaisantons, que nous travaillons, que nous nous marions, que nous snobons et que nous exploitons, soit des aurores immortelles ou des splendeurs éternelles. Quand on prend Romains 8 et qu'on réalise que les élus de Dieu vivront éternellement glorifiés, des splendeurs éternelles, et que Gary réalise cela dans cette méditation, et qu'il pense à sa femme ou à ses enfants contre qui il s'est énervé. Elle se dit, ah oui, ça met les choses en perspective. Et que ces personnes, la personne qui est assise à côté de moi, mon voisin, mon frère, Dieu l'aime de toute éternité, et c'est contre lui que je me mets en colère, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Méditation. Et c'est là, ce n'est que la deuxième étape. Certains pourraient dire, bah, ça va s'arrêter là. Non. La troisième étape est la plus importante en réalité, c'est celle de la tentation. Tentation. C'est le moment de l'épreuve. Après la prière, après la méditation sur le texte, l'effort pour vraiment avoir capté, s'être imprégné, c'est d'avoir compris ces réalités, c'est la tentation, la mise à l'épreuve. Et c'est le moment clé. Elle nous apprend non seulement à connaître et à comprendre, mais aussi à expérimenter à combien ce qui est écrit dans la parole, c'est vrai. Et ça met à l'épreuve ce temps de méditation. Et c'est pour ça que quand on lit le psaume 119, qui est le modèle que prend Luther, on voit que David se plaint souvent de toutes sortes d'ennemis. C'est la citation que j'ai mise, hein, oui. C'est ça. Elle vous apprend non seulement à connaître et à comprendre, mais aussi à expérimenter combien la parole de Dieu est juste, la tentation. Combien la parole de Dieu est juste, vraie, douce, belle, puissante et réconfortante. C'est la sagesse suprême. Quand j'étais là en train de... ou juste là avant de commencer à monter ici et que je suis en train de me dire, peut-être que la tentation vient de me dire qu'est-ce que les gens vont penser de cette chose que j'aimerais vous partager, et que je me rappelle que Dieu m'aime depuis toute éternité, et que si je me trompe et que je fais dit n'importe quoi, enfin, c'est pas grave. Enfin, bon, au final, peut-être que j'aurai pas mon stage, mais c'est pas grave. Dieu m'aime toute éternité et je serai pour l'éternité avec lui. La parole retire la crainte. Et je peux me concentrer, une fois que ce péché est enlevé, je peux me concentrer. Maintenant, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas que ce soit pour moi, je veux que ça puisse les encourager, je veux que ça puisse les aider. Aide-moi à les aimer au travers de ça. Je suis libre de les aimer. Et c'est la dynamique. Et ce moment, quand je reprends du coup mon exemple, c'est la tentation. C'est ce moment-là où la méditation qui est venue, les temps passés dans la méditation et la prière avant sont ressortent et sont exploités et me font grandir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment grandir. Parce qu'au travers de ces épreuves, nous apprenons qui est Dieu. Nous le vivons vraiment. Et c'est ce que nous avons dans le psaume 119, verset 67, juste avant de conclure. Il dit, avant d'être affligé, je m'égarais. Avant d'être affligé dans la tentation, dans la souffrance, je m'égarais. Mais maintenant, après la souffrance, je garde ta parole. Tu es bon et tu fais du bien. Enseigne-moi tes lois. Il est bon pour moi d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes lois. La souffrance et la difficulté est un moment privilégié où, riche de la prière et de la méditation, nous pouvons connaître Dieu plus profondément et grandir. Et grandir. Si nous nous tournons vers lui, et si nous prenons le verset 13, mettons à mort notre péché. Je conclue. Ça veut dire que si on regarde à tout ça, à ces réalités, si on les expérimente, c'est ainsi que je peux connaître Dieu plus intimement, le connaître vraiment. Et la semaine prochaine, on va retourner à la vie de tous les jours. On va quitter le week-end, on va retourner à nos vies, à nos travails, à la course, aux enfants amenés à l'école, aux cours. Ah, c'est les vacances. Eh bien, c'est peut-être pire, je ne sais pas. Les enfants toute la journée à la maison. Non. Et nos émotions vont être travaillées, les tentations vont être là. Mais la seule opportunité que nous aurons de grandir dans ces tentations, dans ces souffrances, dans ces difficultés, que ce soit ces petits tracas de la vie ou les grandes souffrances, c'est que nous aurons pu connaître la vérité avec des yeux ouverts au travers de la prière. Et quand les souffrances viendront, nous pourrons grandir et nous aurons la force, par l'esprit, de mettre à mort notre péché et d'aimer notre femme, enfant, collègue, etc. Alors je conclus par la prière. Et merci Père pour les promesses et la vision grandiose que nous avons de toi dans Romains 8, ce Dieu qui nous aime de toute éternité et à cause de cela qui nous a sauvé, incorporé à cette chaîne incassable du salut, et qui pour cela fait tout concourir pour notre bien aujourd'hui, souffrance et gloire, parce que nous sommes tes enfants, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons, à cause de tout cela, mettre à mort notre péché et être capables d'aimer du même amour que toi ceux qui nous entourent. Père, c'est ma prière. Je prie que tu puisses faire cela en nous. Donne-nous de ne pas nous réfugier derrière des desseins d'enfants pour mettre à mort notre péché et aimer les autres, mais vraiment. De regarder à toi, de prier, ouvre nos yeux et de te laisser nous transformer par les vérités, par les vérités qui te concernent, notamment les vérités glorieuses de Romains 8. Je prie que tu puisses bénir mes frères et sœurs, cette famille en toi pendant cette semaine, que tu les accompagnes et que tu leur donnes de te chercher, de ne pas se contenter de ce qu'ils savent déjà de toi, mais de te connaître toujours plus, davantage. Tous les jours, de t'aimer plus tous les jours, afin que nous puissions grandir et, comme dit Paul aux Colossiens, vraiment être trouvés irréprochables et purs quand tu reviendras, Seigneur. C'est ma prière. Dans ton saint nom et par ta puissance et par ton esprit. Amen.